Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Cette édition du Coran propose la traduction française de Denise Masson, islamologue née en 1901, publiée chez Gallimard et associée à la bibliothèque de la Pléiade. Le livre ne constitue pas un essai qui résumerait l'islam, mais l'accès, par une traduction accompagnée d'un appareil éditorial, au texte religieux central de cette tradition. Pour les musulmans, le Coran est la parole divine révélée en arabe au prophète Muhammad, selon une transmission progressive. Sa composition rassemble 114 sourates de longueur très inégale, faites d'exhortations, de récits prophétiques, de prescriptions, de prières et d'évocations eschatologiques. La traduction de Masson doit donc être lue comme une médiation savante vers un texte dont la forme arabe récitée est tenue pour inimitable dans la foi musulmane. Ne se confond pas avec ses versions françaises. L'intérêt de ce volume tient à la fois à son ambition littéraire, à ses notes et à la possibilité qu'il offre d'étudier directement les grands axes coraniques sans les réduire à un exposé doctrinal extérieur. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une traduction française qui assume le statut de médiation. Lire le Coran dans la version de Denise Masson suppose de distinguer le texte coranique arabe de son rendu français. Dans la tradition musulmane, le Coran proprement dit est lié à sa formulation arabe et à sa récitation. Une traduction transmet le sens de manière nécessairement partielle, car elle doit arbitrer entre plusieurs possibilités grammaticales, sémantiques et rythmiques. Ce statut n'enlève rien à son utilité, il rend le texte accessible au lecteur francophone et donne des repères pour suivre ses motifs, ses injonctions et ses récits. Mais il invite à ne pas attribuer automatiquement à chaque mot français toute la portée du terme arabe correspondant. Masson aborde cette tâche en islamologue et en traductrice, dans une édition conçue pour la lecture savante autant que pour la consultation. Son travail appartient à l'histoire française des traductions du Coran, avec les choix de langue et de présentation propres à son époque. L'appareil de notes et l'introduction signalent que comprendre ce corpus implique un effort de contextualisation. Cette édition convient ainsi à une lecture attentive, qui confronte les passages, observe les renvois et accepte que des difficultés restent ouvertes. Elle ne remplace ni l'étude de l'arabe ni les traditions exégétiques musulmanes, mais elle fournit une porte d'entrée structurée et exigeante. Deuxièmement, l'unité divine comme principe organisateur du message, le monothéisme constitue le centre théologique du Coran. Dieu y est présenté comme unique, créateur, connaissant les actes humains, juste dans son jugement et miséricordieux envers ceux qui se tournent vers lui. Cette affirmation ne se limite pas à une proposition abstraite sur la nature du divin. Elle organise une critique de l'idolâtrie, de l'autosuffisance humaine et de l'attribution à Dieu d'associé ou d'intermédiaire divinisé. Elle fonde aussi une compréhension de la responsabilité, les êtres humains reçoivent des signes dans le monde. Une orientation par la révélation et l'obligation de répondre à cette orientation. La traduction permet de saisir la répétition de ces thèmes sous des formes variées, parfois argumentatives, parfois liturgiques ou narratives. Le texte associe fréquemment la puissance créatrice à la compassion et au pardon, ce qui empêche de réduire son Dieu à une seule fonction de juge. En même temps, la souveraineté divine impose une limite nette aux prétentions humaines. Pour le lecteur, cette architecture explique pourquoi des thèmes apparemment éloignés, tels que la prière, l'aumône, les récits des prophètes ou les règles de conduite, reviennent à une même question: comment vivre en reconnaissant l'unicité de Dieu. Le Coran relie donc convictions religieuses, gratitude et pratiques morales, plutôt que de les traiter comme des domaines indépendants. Troisièmement, les récits prophétiques comme mémoire et avertissement, le Coran évoque de nombreuses figures déjà connues des traditions bibliques et proches orientales, parmi lesquelles Adam, Noé, Abraham, Moïse, Joseph, Marie et Jésus. Ces récits ne visent généralement pas à livrer des biographies continues ni une chronologie détaillée. Ils sont repris par épisode afin d'éclairer une situation religieuse et morale, appel à reconnaître Dieu, refus d'écouter l'envoyé, persécution des croyants, délivrance ou châtiment des communautés. Cette forme explique les retours fréquents sur un même prophète, avec des variations de perspective selon les sourates. Le lecteur de la traduction gagne à les considérer comme des rappels argumentatifs et spirituels, plutôt que comme de simples histoires autonomes. Abraham y sert notamment de figure de fidélité au Dieu unique, tandis que Moïse incarne à plusieurs reprises la confrontation entre un messager et un pouvoir arrogant. Les récits soulignent également la continuité de la révélation, le message confié à Muhammad se présente comme lié à une suite de messagers, tout en contestant certaines interprétations ou certains oublis attribués aux communautés antérieures. Cette dimension rend nécessaire une lecture comparative prudente. Les ressemblances avec la Bible sont réelles, mais les fonctions narratives et les formulations coraniques demeurent spécifiques. L'édition de Masson est particulièrement utile à qui veut suivre ses échos en français sans confondre les corpus ni effacer leurs divergences théologiques. Quatrièmement, justice sociale, obligations cultuelles et responsabilités concrètes, le Coran unit constamment la foi à des conduites observables. La prière, le jeûne, l'aumône. L'accomplissement des engagements, l'équité dans les échanges et l'attention aux personnes vulnérables ne sont pas présentés comme de simples règles isolées. Ils constituent des manières de traduire la reconnaissance de Dieu dans la vie collective. La critique coranique vise notamment l'ostentation religieuse, l'avarice, la fraude, l'exploitation des faibles et l'indifférence envers les pauvres ou les orphelins. Cette insistance donne au texte une portée éthique et sociale qui dépasse l'image d'un livre exclusivement consacré à des croyances. Il faut néanmoins éviter de lire chaque passage normatif comme un code juridique autosuffisant. La compréhension et l'application de ces versets ont été développées à travers des traditions d'interprétation, le droit musulman et des contextes historiques divers. La traduction de Masson permet de repérer les textes concernés, mais elle ne peut contenir à elle seule l'ensemble de ces débats. Son intérêt est de montrer l'imbrication du culte, de la morale et du lien social dans le discours coranique. Le lecteur constate que la justice n'y relève pas seulement de la sanction, mais aussi de la mesure, de la véracité, de la solidarité et de la protection due à autrui. Cette articulation demeure essentielle pour lire les prescriptions sans les détacher de leur horizon religieux. En dernier lieu, résurrection. Jugement et horizon de l'action humaine, l'évocation de la résurrection, du jugement et de la rétribution traverse le Coran avec une grande intensité. Le texte rappelle que la mort ne clôt pas l'existence humaine et que les actes, les intentions et les refus de la vérité ont une portée ultime. Les descriptions du paradis et de l'enfer. Les appels à contempler la création et les images de bouleversement cosmique remplissent une fonction argumentative, ils contestent l'idée que la puissance, la richesse ou l'impunité terrestre seraient les critères définitifs de la valeur humaine. Cet horizon eschatologique soutient l'appel à la conversion, au repentir et à la persévérance. Il n'est pourtant pas uniquement punitif, la miséricorde divine. Le pardon et la possibilité de revenir vers Dieu constituent des motifs récurrents, en tension avec les avertissements adressés à ceux qui persistent dans le déni et l'injustice. La lecture en traduction rend sensible à la force répétitive de ces appels, même si la musicalité et la concision de l'arabe ne peuvent être entièrement reproduites. Pour interpréter ces passages, il convient de tenir ensemble leurs dimensions spirituelles, morales et rhétoriques. Ils ne décrivent pas seulement un avenir dernier, ils cherchent à modifier le présent en rendant l'individu conscient de ses choix. Dans cette perspective, le jugement final donne une cohérence à l'exigence coranique de responsabilité personnelle et de justice envers les autres. En conclusion, cette édition s'adresse d'abord aux lecteurs francophones qui souhaitent rencontrer le Coran dans son ampleur, plutôt qu'à travers des extraits polémiques, des résumés scolaires ou des commentaires de seconde main. Elle peut servir aux étudiants en histoire des religions, en littérature comparée, en études du monde arabe et en philosophie religieuse, mais aussi à toute personne désireuse de comprendre les références majeures de l'islam. Son bénéfice intellectuel principal est d'obliger à suivre un texte dense dans sa pluralité de registres proclamations de foi, exhortations morales, récits prophétiques, prescriptions et visions de la fin des temps. Une telle lecture aide à situer les débats contemporains dans un corpus plus vaste et plus complexe que les usages sélectifs qui en sont souvent faits. Le volume se distingue de nombreuses traductions courantes par son inscription dans la bibliothèque de la Pléiade, son ampleur et la présence d'un accompagnement éditorial. Denise Masson apporte le regard d'une islamologue ayant consacré une part importante de ses travaux au rapport entre le Coran et les traditions judéo-chrétiennes. Cette qualité ne transforme pas la traduction en version définitive, car toute traduction du Coran demeure interprétative et doit idéalement être comparée à d'autres rendus français ou aux textes arabes. Elle en fait en revanche un instrument de lecture sérieux, particulièrement adapté à une approche lente, contextualisée et attentive aux nuances du texte. Si vous souhaitez soutenir Anonyme, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.